Alors c'est un virus qui se manifeste comme une grippe, en effet, c'est pour ça qu'on le compare. D'ailleurs, on ne peut pas cliniquement faire la différence entre une grippe saisonnière et puis une grippe due au coronavirus. Mais ce n'est pas une petite grippe dans le sens où le virus est extraordinairement contagieux et ça fait une épidémie qui est très importante avec tout un panel de symptômes qui vont de rien du tout, asymptomatiques jusqu'au décès. Et ça prend des proportions importantes à cause de cela.
Outre les différences vraiment dans les symptômes, on note quoi encore comme différence justement entre une grippe saisonnière et le coronavirus ?
Alors tous les gens qui sont symptomatiques ont de la fièvre, à peu près, c'est plus de 98%. Ça c'est un signe vraiment incontournable. Et puis sinon, la toux survient dans à peu près 60% des cas. Sinon c'est de la fatigue ou un peu encore des douleurs un petit peu partout dans les membres. Mais c'est surtout, disons, la toux et la fièvre qui sont les symptômes cardinaux.
Alors pourquoi on prend de telles mesures, pourquoi le gouvernement prend de telles mesures pour lutter contre ce virus ?
Alors en fait, la mortalité du virus, elle n'est pas beaucoup, beaucoup plus élevée que celle du virus de la grippe. Elle l'est quand même un tout petit peu vraisemblablement. Mais si on teste tout le monde, comme on fait en Suisse, on teste vraiment beaucoup, beaucoup de gens, on se rend compte que la mortalité n'est même pas d'1%. Par contre, du moment qu'elle est tellement contagieuse et tellement de gens sont touchés, ça fait proportionnellement beaucoup plus de gens qui sont en danger. D'une part, je ne parle même pas de la mortalité, mais aussi des gens qui vont arriver ou qui arrivent déjà à l'hôpital. On considère, en tout cas en Chine, les chiffres, c'est à peu près 80% de gens asymptomatiques ou peu de symptômes, 15% de gens avec des symptômes sévères, c'est donc ceux qui vont arriver à l'hôpital, et puis après 5% de gens pour qui les symptômes sont très graves et qui ont besoin de soins immédiatement. Donc si on considère la population en général, ça fait quand même beaucoup de monde, raison pour laquelle des dispositions ont été prises par le Conseil fédéral pour essayer de diminuer au maximum la contagion.
Alors les fausses informations, c'est pas ce qui manque hein, sur les réseaux ou les réseaux sociaux. Heureusement que les hôpitaux et les institutions publiques ont fait des démentis, mais si vous êtes d'accord, on va quand même essayer de faire le tour de ce qui tourne et démêler le vrai du faux. Alors on commence par les principaux symptômes, vous les avez dit, mais finalement quand est-ce qu'on doit s'inquiéter? Parce que vous le dites, ça peut des fois être asymptomatique.
Oui, alors bien c'est clair que tous ceux qui sont asymptomatiques vont pas s'inquiéter outre mesure, si ce n'est que les asymptomatiques peuvent transmettre le virus, c'est quand même un problème. Et pour les autres, ben c'est quand on a de la fièvre et puis de la toux qu'on peut commencer à penser qu'on est éventuellement infecté par ce virus. Là, il faudrait faire un dépistage. Et puis ceux qui ont de la fièvre, de la toux et de la peine à souffler, ceux-là ont intérêt à faire un dépistage et se présenter chez un médecin.
Alors, dans plusieurs messages qu'on a vu passer ces derniers temps, on nous disait aussi qu'il fallait boire du chaud. C'est vraiment un moyen de se protéger, ça ?
Alors, en matière de prévention de ce virus, à part prendre ses distances et puis se planquer jusqu'à ce qu'il est passé, tout le reste, ça passe. Non, boire du chaud, ça change absolument rien. Aucune donnée scientifique qui permette de dire que ça change quelque chose.
Donc, on imagine que les gargarismes avec des solutions désinfectantes, ou même on a vu des fois avec de la bétadine, ça non plus, ça sert à rien.
Non, parce que c'est un virus qui, c'est clair, il a un tropisme pour l'appareil respiratoire, mais il va dans le poumon. Donc, si vous gargarisez, vous arrivez au mieux à toucher la gorge. Et puis même, c'est un virus qui entre dans les cellules, donc vous pouvez gargariser tout ce que vous voulez, vous n'arrivez pas à le faire sortir.
On voit aussi beaucoup de personnes qui disent, voilà, sur cette surface-là, le virus va vivre tant de temps. Sur les vêtements, il va rester plusieurs jours. Est-ce qu'on peut dire que oui, sur les surfaces lisses, le virus va continuer de vivre et combien de temps? Et sur les vêtements aussi?
Alors en fait, on a peu de données sur ça. On sait que le coronavirus standard qu'on a habituellement chez nous chaque hiver, qui fait des rhumes chez les enfants, celui-là, il peut survivre en tout cas 6 jours sur une surface inerte. On ne sait pas s'il est encore infectant pendant longtemps. Il y a des données qui sont sorties cette nuit aux États-Unis dans le New England Journal of Medicine, un peu notre Bible, qui montrent qu'ils ont fait des tests cette fois-ci avec ce coronavirus, celui qui fait l'épidémie actuellement, où ils ont montré qu'il pouvait survivre 4 heures sur du cuivre, 8 heures sur du carton, 24 heures sur une surface métallique, puis 72 heures sur du plastique. Et puis, bien entendu que ça dépend de la charge virale au départ. Si quelqu'un crache avec un gros crachat, ça va certainement vivre ces heures-là. Si c'est juste un petit postillon, ça va pouvoir vivre un peu moins longtemps. Mais vous voyez que le virus survit quand même assez longtemps sur des surfaces inertes. 72 heures, c'est 3 jours sur un bout de plastique. Donc, ça montre aussi qu'il faut bien désinfecter les endroits où des gens ont été... malade, par exemple, ça c'est pour nous à l'hôpital, mais aussi faire attention à se laver les mains fréquemment de façon à ce que, parce qu'on est en contact avec toutes ces surfaces que je viens de citer.